29 février 1984, Père Philippe Saint-Joseph.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous.
Nous sommes toujours dans cette question de la diversité des arts. Et ceci pour mieux comprendre le problème de l'inspiration et le problème de l'œuvre. On a essayé d'abord de comprendre ce que c'est qu'inspiration, de façon générale. C'est normal, la ratio inspirationis, comme dirait saint Thomas, la raison d'inspiration. Qu'est-ce que c'est que l'inspiration ? Comment l'inspiration représente un type de connaissance irréductible à toutes les autres connaissances. Mais c'est un type de connaissance. On ne peut pas la nier. Et c'est un type de connaissance qui a une source subjective. C'est toujours ça qu'il faut regarder. Et je crois que ça, c'est très intéressant et très important. C'est une source subjective. Ça commence à partir même de l'artiste, du poète, du musicien. Alors, vous voyez, ça légitime en partie, comprenez bien, ce que Kant peut dire. Chez tous les philosophes, il y a toujours quelque chose qu'on doit retenir. Petite paillette de vérité. Même s'il y a des choses que nous ne sommes pas d'accord, il faut essayer de comprendre. Ils ont existé, ils ont dit quelque chose. Il est évident que la partie de Kant sur l'imagination est une des choses les plus intéressantes. Traiter de l'imagination de Kant, pour moi, c'est une des choses les plus intéressantes. Et le traité de l'imagination de saint Thomas et puis celui de Kant. Si quelqu'un veut étudier les deux, ça vaut la peine. Et les mettre en parallèle, c'est très intéressant. L'imagination chez Aristote, c'est le premier traité de l'imagination. Donc c'est le premier qui comprend ce que c'est que l'image et ce qui comprend la connaissance symbolique. Puisque par le point de vue d'imagination, on comprend ce que c'est que l'image et la connaissance symbolique, l'icône. Et ensuite, il faut attendre Kant. Parce qu'on ne peut pas dire que saint Thomas a donné un nouveau traité de l'imagination, non. Pas beaucoup d'imagination, saint Thomas, sauf en commentant Aristote, mais pas autrement. Dans la somme théologique, vous ne voyez pas un traité sur l'imagination. Le théologien n'en a pas, alors il passe dessus. On voit très très bien comment, de fait, il n'a pas besoin de le faire. Parce que le théologien, il a la foi, et donc il essaie d'avoir le moins d'imagination possible. Vous savez bien ce que dit la grande sainte Thérèse. Dieu m'a fait une grâce énorme de ne pas avoir d'imagination. Il suffit de dire sainte Thérèse pour voir qu'elle en a beaucoup. Mais de fait, elle dit que Dieu lui a fait cette grâce énorme de ne pas lui avoir d'imagination. C'est très très beau, je trouve ça. Parce que ça prouve qu'au fond, son imagination ne la gênait pas. Elle ne restait pas dans l'imaginaire. Elle avait de l'imagination, mais ne restait pas dans l'imaginaire. Et c'est très différent, ça. C'est deux choses différentes. Et on n'a pas de traité, mais il y a le traité de Kant. Et ça m'intéresse beaucoup parce que, de fait, c'est peut-être là où on saisit ce qu'il y a de juste, vous voyez, dans la subjectivité transcendantale de Kant. La subjectivité transcendantale de Kant est vraie pour l'artiste. Chez l'artiste, il y a une subjectivité transcendantale. Ça, on ne peut pas nier. Ce n'est pas le beau qui est transcendantal, c'est l'artiste. Et Maritain, là, s'est mis le doigt dans l'œil. Il a poussé l'objectivité jusqu'au bout en oubliant. Et ça, c'est parce que Maritain est en opposition vis-à-vis de l'idéalisme. Alors, il n'a pas compris. Alors, il faut nécessairement une objectivité. Alors que c'est justement une connaissance sans objectivité. au point de départ, il y aura une intégration d'une objectivité. Mais c'est très intéressant de voir ça, de voir que de fait, quelqu'un qui est thomiste par la volonté, n'est-ce pas, et qui veut être thomiste par le fait même, alors il veut, on n'est plus royaliste que le roi, alors être plus thomiste que saint Thomas, c'est vouloir retrouver l'objectivité dans toute connaissance. Ça, je crois que c'est ça, vouloir être thomiste, plus thomiste que saint Thomas. C'est vouloir trouver l'objectivité jusqu'au bout. Donc, même dans la connaissance poétique, alors, on invente le beau transcendantal. C'est l'objectivité la plus parfaite. Donc, l'inspiration reste objective. Mais non, elle n'est pas objective. Parce que le beau transcendantal n'existe pas. Il existe une subjectivité transcendantale. Ah, ça, oui. Chez l'artiste, il y a une subjectivité transcendantale, c'est-à-dire qu'il y a une subjectivité qui est au-delà de l'expérience. Puisque transcendantal veut dire au-delà de l'expérience. Quelque chose qui est... Vous voyez, transcendantal chez saint Thomas, c'est au-delà des prédicaments, et transcendantal chez Kant, c'est au-delà de l'expérience. Quelque chose qui ne dépend pas de l'expérience. Un dépassement de l'expérience. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme dépassement de l'expérience? Mais c'est la connaissance d'inspiration. C'est une connaissance poétique. La connaissance poétique, comme la connaissance qui implique une inspiration, elle a quelque chose de transcendantal. Alors, voyez, vous rattrapez là quelque chose que Kant dit. Alors, lui, l'erreur, c'est de l'affirmer pour toute connaissance, alors que c'est vrai pour la connaissance poétique. Alors que c'est vrai pour la connaissance artistique, mais ce n'est pas vrai pour toute connaissance. Et on comprend très bien comment il peut y avoir une subjectivité transcendantale grâce à l'intellect agent. Alors il faudrait regarder comment l'intellect agent travaille chez le poète et comment l'intellect agent travaille chez l'intellect spéculatif. Ça serait une question très intéressante, elle n'a jamais été traitée. Moi, je ne l'ai jamais vu. Chez aucun scolastique, et je crois qu'après, pas du tout, parce que l'intellect agent, vous savez bien, c'est une pièce très très importante. C'est vrai, pour beaucoup. Il y en a combien qui ne savent pas ce que c'est que l'intellect agent? Ils lèvent les mains. Alors, vous voyez ça, hein? Alors maintenant, ils peuvent les baisser. Je vais leur dire. Parce que c'est important. Oui, parce que... De temps en temps, me lever la main quand je dis un mot, un gros mot que vous ne connaissez pas, eh bien, vous n'avez qu'à lever la main et dire « Père, je ne comprends pas, qu'est-ce que cet intellect agent ? Il est en dessous de la table. » Alors, l'intellect agent, il faut découvrir ce que c'est que l'intellect agent. Il faut découvrir ce que c'est. C'est une invention d'Aristote. C'est, comprenez bien ce que je veux dire, c'est dans le domaine de l'intentionnalité ce qu'est Dieu dans le domaine de l'être. Ça, c'est... Vous avez tout compris, je sais. Dans le domaine de l'intentionnalité. Oui, parce que c'est intéressant. Dans le domaine de l'intentionnalité, la forme intentionnelle. Qu'est-ce qui est à l'origine de la forme intentionnelle? Qu'est-ce qui est source de la forme intentionnelle? La forme intentionnelle, elle est à tous les niveaux. Nous le reverrons en philosophie du vivant. Alors, je vais simplement le dire maintenant, nous reverrons en philosophie du vivant ce qu'est le point de vue de l'intellect agent. C'est la source. C'est la source, acte pur. On va le voir. Acte pur. Aristote dira que l'intellect agent, il est comme la lumière. Il est comme la lumière. Os phos. C'est merveilleux. Os phos. Il est comme la lumière. Alors, on dit que tu es lumière. Acte pur, lumière. Dans l'ordre de l'intentionnalité. Dans l'ordre de la connaissance. C'est ce qui illumine nos fantasmes, nos images, nos représentations, pour qu'à partir de là se forme la forme intentionnelle. On verra mieux ce que c'est, simplement pour que vous ayez un petit quelque chose dedans. Bien, l'intellect agent, nous l'avons tous. Nous avons tous l'intellect agent, c'est-à-dire que nous sommes tous intelligents et capables d'avoir une lumière intérieure. Alors, est-ce que cette lumière intérieure ne va pas apparaître de façon très particulière dans l'inspiration? Cette lumière intérieure va jouer un rôle tout à fait particulier dans l'inspiration. Cette lumière qui vient de notre esprit et qui va éclairer l'imaginaire et faire que l'imaginaire ne va pas être une forme intentionnelle abstraite, mais à l'intérieur de l'imaginaire, il va y avoir une illumination qui sera comme une inspiration. C'est vrai que toutes les inspirations, c'est comme une lumière. Ça passe comme l'éclair. C'est du lumineux, quelque chose de très passager, mais quelque chose de très fort. Alors c'est à l'intérieur de l'imaginaire qu'il y a cette lumière qui apparaît, cette lumière qui est l'intellect agent. Ça ne veut pas dire que tous les agents sont des intellects. L'intellect agent, ça veut dire l'intellect actif. C'est l'intellect actif. C'est qui est source. Source de lumière. Vous voyez ? Alors c'est source de lumière. Ça, les agents. Et c'est le nous. C'est le nous. L'intelligence. Alors il y a le nous passif, dans lequel se réalise la connaissance, et le nous actif. Vous voyez, dans l'appétit naturel de l'intelligence, hein, il y a le nous actif et le nous passif. Hein. C'est très important, les deux. Parce que c'est très vrai, il y a quelque chose dans l'intellect agent qui me fait comprendre comment l'intellect est ouvert à l'infini. Rien ne limite l'intellect. Rien. Et rien ne peut le limiter. Ce ne serait pas l'intellect. Quand Aristote dit que l'intellect est séparé, c'est justement pour nous faire comprendre qu'il n'est limité par rien. Il est le lieu de toutes les formes. Parce qu'il n'a pas de forme. Il est au-delà de la forme. Il est au-delà de la forme, il est être. Il n'est pas non-être. Il est au-delà de la forme. Il est l'intellect réceptif et capable de recevoir toutes les formes. Et l'intellect agent agit, alors lui, sur l'imaginaire, toujours. Mais il agit diversement sur l'imaginaire. Et dans l'inspiration, il agit sur l'imaginaire, sur les images, en demeurant dans les images, mais en donnant aux images une signification. C'est pour ça que c'est un langage symbolique. Le langage symbolique naît à l'intérieur de l'imagination illuminée par l'intellect agent. Et il est reçu, il est vécu dans l'intellect possible. Vous verrez mieux ça après. On verra ensemble la distinction entre l'intellect passif et l'intellect actif. En philosophie du vivant. Mais c'est sûrement quelque chose de très très important. Et c'est l'application de la philosophie, de l'art et de la puissance au niveau de l'esprit. Et c'est pour ça qu'on peut dire que l'intellect actif est dans l'ordre de l'intentionnalité ce que Dieu est dans l'ordre des états. Parce qu'il est source. Et on dévoile l'intellect agent. On dévoile cette source cachée que nous portons en nous. Cette source cachée que nous portons en nous, qui est source de toute notre activité intellectuelle et qui est source de toute notre inspiration. Alors, nous allons, à partir de là, essayer de comprendre un peu mieux ce que représente l'activité poétique. C'est une chose qui est très importante pour nous, je crois, de bien saisir ce que représente cette activité poétique. Alors, je reprends pour ceux qui ont l'activité artistique, c'est donc page 71. Un Socrate qui s'étonne des multiples significations de l'amour, Diotime dans le banquet, donne l'exemple d'une autre idée, celle de création, poiesis, qui est aussi quelque chose de très vaste, car toute cause de l'acheminement du non-être vers l'être est un acte de création. Reste très beau de dire ça. Le cheminement de non-être vers l'être est un acte de création. De sorte que toutes les réalisations des arts sont des créations. C'est dit dans le banquet. Toutes les réalisations. Alors, comprenons bien, sont des créations. Ce n'est pas une création absolue, mais c'est une création dans l'ordre des formes. La création au sens absolu est dans l'ordre de l'être. La création au sens artistique est dans l'ordre de la forme. De sorte que toutes les réalisations des arts sont des créations. Et que les diémurges de ces œuvres sont des créateurs, des poètes. Poietai. Donc il y a un parallélisme que Socrate, que proprement Platon, puisque c'est dans le banquet. Hein. Et Platon dans le banquet est déjà à l'état mûr. Donc il est sorti du sein de Socrate. Alors il est déjà à l'état mûr et donc c'est vraiment Platon qui dit ça. N'est-ce pas ? Alors pour Platon dans le banquet, on fait un parallélisme entre les démiurgoi et les poietai, donc les diémurges et les poètes. Et pourtant, on ne les appelle pas tous créateurs, mais de la totalité de la création, on a détaché une partie, celle qui concerne musique et métrique. Et c'est la dénomination du tout qui sert à la désigner. Car c'est cette partie seulement qu'on appelle poiesis, poésie, et poiet. Poietai, poète, ceux dont le domaine est cette partie de la création. Vous voyez cette chose très intéressante. Hein? Platon, dans le banquet, nous met donc devant ce fait qu'il y a des créateurs. Il parle de là, des créateurs. Et ces créateurs sont des poètes. Ils sont démiurges, c'est-à-dire ils sont source première de réalisation. Ils réalisent quelque chose. C'est à partir de là qu'ils voient le mot poète, vous voyez ? Le mot poète comme une partie particulière, une partie principale de tout ce que représente l'art. Enfin, pour Platon, l'art au sens le plus fort, c'est l'art poétique, c'est la poésie. La poésie est donc bien pour lui l'art au sens le plus fort. Platon voit bien dans le poète un créateur et considère son inspiration comme étant d'origine divine. Cependant, dans sa perspective politique, il juge assez durement les poètes, tout en reconnaissant leur importance dès l'instant où ils acceptent de se soumettre à un but qui n'est pas le leur. Ça, c'est toute la grosse question du point de vue poétique et du point de vue proprement politique. Les liens qui existent entre les deux. Dans quelle mesure ? Parce que Platon est très sévère vis-à-vis des poètes dans l'éducation. C'est dangereux si on présente, si on donne les poètes aux enfants, ben ils continueront de vivre dans la mythe. Ils ne seront pas réalistes. Et pourtant, la poésie est quelque chose de nécessaire. Alors, dans quelle mesure la poésie peut-elle être éducatrice ? Bon, toute la question est là. Il reconnaît que la musique est absolument nécessaire à l'éducation, ainsi que la gymnastique. Enfin, c'est les deux grands arts qui sont nécessaires à toute éducation. Il faut la poésie et la gymnastique. N'est-ce pas ? C'est nécessaire. Ça. Former le corps, la gymnastique, former l'âme, la musique. Alors, forme le corps et l'âme de cette manière, en mettant une harmonie entre les deux. Profonde. Et ensuite, il y a la poésie. Former le logos. Former le langage. Apprendre à parler. Donc, c'est la poésie qui, normalement, devrait être là. L'âme qui communique, qui se communique aux autres. Et qui est capable de communiquer aux autres. Alors, à ce moment-là, Platon fait une distinction qui est très intéressante en disant, il y a des poètes qui ne peuvent pas être des éducateurs. Et puis, il y a des poètes qui peuvent être des éducateurs. Alors, je n'entre pas dans toute la question, c'est très intéressant, parce que ça montre comment il y a une poésie qui peut être éducatrice, et une poésie qui, au contraire, vous maintient dans le mensonge. Aristote, par contre, il semble être le premier à le faire, libère la poésie de cette subordination à l'éducation. Au fond, pour Platon, la poésie est acceptable dans la mesure où elle est éducable, dans la mesure où elle peut éduquer, dans la mesure où elle est utilisable en politique. Une poésie prise pour elle-même, je ne sais pas. Je crois que Platon la considérait comme condamnable. Je crois. C'est délicat, mais je crois. Tandis qu'Aristote, et c'est intéressant parce que si la poésie c'est l'art des arts, c'est donc elle qu'on va tout de suite voir. Aristote libère la poésie de cette subordination au point de vue éducatif. Il la considère comme plus proche de la philosophie, de la sagesse que l'histoire. Ça, c'est aussi un problème extrêmement intéressant. Ça ferait partie de toute une recherche actuelle extrêmement intéressante. Il est bien évident que dans notre perspective actuelle, l'histoire est beaucoup plus proche de la philosophie que l'art. Dans la perspective d'Aristote, l'art est beaucoup plus proche de la philosophie que l'histoire. Vous allez dire, l'histoire a été très peu développée. C'est vrai. L'histoire a été très peu développée. Mais ça revient au même. Aristote regarde le principe. Et pourquoi l'histoire est-elle plus lointaine de la philosophie que la poésie, donc que l'art ? Parce que l'histoire ne donne que des faits, décrit. L'histoire décrit. Alors que l'artiste fait plus que décrire. Il nous donne des causes exemplaires. Il nous donne une œuvre. Une œuvre qui est un type particulier qui peut jouer son rôle de causalité exemplaire. Et c'est parce que justement l'artiste est capable de réaliser quelque chose qui est dans la cause exemplaire que l'art est plus proche de la philosophie que le point de vue histoire. Il faut aussi, ça, il faut se rappeler ce point de vue-là, c'est dans la poétique qu'Aristote dit ça, et c'est quelque chose quand même de très curieux, qui doit un peu nous surprendre, et on doit à partir de là se demander vraiment la signification de cette affirmation d'Aristote. Il la considère, donc il considère la poésie comme plus proche de la philosophie, de la sagesse que l'histoire, sans pour autant confondre langage poétique et langage philosophique, intention poétique et intention philosophique. Vous voyez, on n'avait qu'à regarder la note parce que c'est intéressant à voir. Dans sa poétique, Aristote compare le poète à l'historien. Le domaine de l'historien, c'est ce qui a été. Le domaine du poète, ce sont les possibles, ta dunata. exprimée avec vraisemblance et avec nécessité. C'est pourquoi la poésie est plus philosophique et plus élevée que l'histoire, car la poésie est plus proche de l'universel. L'histoire considère le singulier. D'autre part, dans sa Météorologie, Aristote, à propos de la définition de la mer comme sueur de la terre, Aristote précise, pareille expression, c'est-à-dire la métaphore poétique, peut à la rigueur suffire aux exigences de la poésie. Mais la connaissance scientifique de la nature ne saurait s'en contenter. Non, quand vous dites que la mer, c'est, ça représente la sueur de la terre, vous voyez, c'est très poétique. Donc il faut se rappeler ça. C'est intéressant de se rappeler que entre Platon et Aristote, Platon exalte la poésie, mais la subordonne. Aristote montre que la poésie a quelque chose d'unique, quelque chose qui lui est tout à fait pour lui. De nouveau, donc, c'est une petite topique rapide sur la poésie, parce que je veux regarder tout de suite ce que dit Maritain là-dessus. De nouveau, chez Vico, la poésie, vous savez que Vico a joué un très grand rôle chez Croce, Benedetto Croce, qui a joué une très grosse influence en Italie. Croce est un des philosophes modernes, hegélien, mais en appliquant l'hegélianisme à l'art, et ne voyant que le point de vue artistique. Benito Croce vaut la peine d'être étudié. C'est quelqu'un qui a fait sûrement beaucoup de mal au point de vue de l'aspect chrétien, de la culture chrétienne en Italie. Il était très en opposition. Mais c'est quelqu'un d'intelligent. Il dit des choses qui sont quelquefois très intéressantes. Benito Croce, ça vaut la peine de le regarder. De nouveau, chez Vico, la poésie se verra assigner une fonction didactique en ce sens qu'elle doit enseigner au peuple à agir vertueusement. Les vrais éducateurs du peuple sont les poètes. C'est juste l'inverse de Platon. Les vrais éducateurs du peuple sont les poètes. Faisons attention, parce que Platon reconnaîtrait aussi que les traditions religieuses transmises par les poètes sont les vrais éducateurs des poètes, du peuple. Et l'opium du peuple, ce n'est pas la religion, selon Vico. C'est l'opium du peuple, sont les poètes. Il faut se renvoyer la balle. Mais le rôle de la poésie est beaucoup plus fondamental chez Vico que chez Platon. Puisque pour lui, la poésie est à la base de toute civilisation humaine. Je crois que Vico a raison. Toute civilisation humaine sort de la poésie. Platon a trop ses idées à lui. Vico, là, constate. Et je crois que c'est très vrai. L'activité artistique précède l'activité rationnelle et philosophique. Elle en est comme la condition indispensable. Et l'activité poétique, qui n'est qu'imitation, est l'âme de toute activité artistique, d'une certaine manière. Donc on peut dire, c'est intéressant au point de vue de la culture, vous voyez, puisque c'est un des gros problèmes d'aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce qui est à l'origine de la culture? La poésie. Telle poésie, telle culture. Et ça, je crois que ça reste vrai. Quoi qu'on peut le dire. Que cette parole de Vico reste quelque chose de très intéressant. Les vrais éducateurs du peuple sont les poètes. Il y a quelque chose qui est fondamental. Le milieu de culture dans lequel on est, c'est toujours le point de vue de la poésie. Sans exclure les autres arts, vous comprenez bien, sans les exclure. Mais c'est la poésie qui nous baigne le plus. À partir des esthétiques post-kantiennes, on assiste à une exaltation extraordinaire de la poésie. Chez Schelling, la poésie, représentation de l'absolu dans le singulier, forme le corps des idées qu'elle représente à partir de la matière du langage, qui est le verbe de Dieu entré dans le fini. Parce que c'est que le langage, évidemment, l'aspect confusion de la parole de Dieu et de la parole humaine. C'est vrai que la parole de Dieu, on peut dire que c'est le verbe de Dieu entré dans le fini. Saint Thomas n'hésitera pas de dire que dans toute parole divine, le verbe de Dieu est présent. Vous trouvez ça dans Schelling. Alors lui, il le dit de la parole de façon générale. La parole, la poésie, représentation de l'absolu dans le singulier, forme le corps des idées qu'elle représente à partir de la matière du langage. Et la matière du langage, c'est le verbe de Dieu entré dans le fini. Et l'on pourrait s'étonner de trouver dans une philosophie aussi systématique que la philosophie hegelienne, ce jugement sur la poésie. Alors ça, je vous lis ce passage. La poésie est le vrai art absolu de l'esprit, se manifestant en tant qu'esprit. Car seule la parole est capable de s'approprier, d'exprimer, en en faisant un objet de représentation, tout ce que la conscience conçoit et revêt d'une forme qu'elle trouve en elle-même. La poésie est pour Hegel l'art le plus riche, le plus illimité par son contenu. Mais elle est le moins sensible, car elle cherche seulement à rendre accessible à l'intuition et à la représentation spirituelle des significations revêtues d'une forme de provenance purement intérieure. C'est très intéressant ce jugement sur la poésie, n'est-ce pas ? De voir que c'est l'art par excellence le plus riche, le plus illimité, mais le moins sensible. C'est-à-dire le plus spirituel. C'est ça que ça veut dire. Le plus spirituel, le plus proche de l'intelligence qui produit la parole. Puisque la matière de cet art est une matière déjà spirituelle, la parole, le langage. Le langage humain est la matière du poète. Le poète travaille sur le langage. Et cette matière, elle est déjà spirituelle. Alors on comprend que la poésie peut être dite l'art le plus spirituel. Dans un contexte tout à fait différent, Maritain, lui aussi, exalte la poésie. La poésie est la libre créativité de l'esprit, dit-il, et la connaissance intuitive par le moyen de l'émotion qui transcende et imprègne tous les arts, pour autant qu'ils tendent à la beauté comme à une fin au-delà de la fin. C'est la beauté transcendantale. Le beau transcendantal, vers lequel tend la poésie. Donc la poésie est la libre créativité de l'esprit. C'est difficile à voir la libre créativité de l'esprit. La créativité de l'esprit, oui, je veux bien que la poésie, c'est la libre créativité de l'esprit, mais c'est très difficile à penser. Moi, je ne sais pas si vous arrivez à penser la libre créativité de l'esprit. Créativité de l'esprit, je vois, mais ça c'est l'inspiration, la créativité de l'esprit, c'est l'inspiration. Et alors la poésie, c'est cette inspiration liée au langage. Donc la poésie, la libre créativité de l'esprit et la connaissance intuitive par le moyen de l'émotion qui transcende et imprègne tous les arts pour autant qu'ils tendent à la beauté comme à une fin au-delà de la fin. Maritain précise immédiatement, alors, la poésie, comme la musique de Platon, est prise en un sens premier, tout à fait universel. Et il poursuit, en ce sens premier et universel, peut-être restreint, nous avons alors la poésie comme employant animant cette activité artistique particulière qui crée un ouvrage de mots, disons la poésie d'expression verbale. Et c'est très difficile à bien saisir. Hein. L'idée de Maritain, nous la verrons de plus en plus, l'idée de Maritain, c'est ceci, c'est que la poésie est l'au-delà de tout art. Autrement dit, l'inspiration poétique, c'est quelque chose qui est séparé à l'égard de tous les autres arts. Chose de premier. C'est même au-delà de la connaissance métaphysique. Il y a une intuition poétique qui commande tout et qui est supérieure à tout. Et c'est cette intuition poétique qui est au-delà de toutes les autres. Alors vous voyez, on en fait comme un genre suprême. Et c'est ça que je n'aime pas beaucoup. On en fait comme un genre suprême. Ce genre suprême, c'est le genre poétique. Et je n'aime pas beaucoup parce que je crois que l'inspiration poétique, l'inspiration musicale, l'inspiration du sculpteur et du peintre, ce sont toutes des inspirations qui sont analogiquement unes et qui ont leur diversité. Donc il n'y a pas une unité générique de l'inspiration, il y a une unité analogique de l'inspiration. Et là, vous voyez bien la différence, hein. Et ça, c'est je ne sais pas comment Maritain a pu arriver à ça, mais c'est un fait. Hein. Il sera de comprendre pourquoi. J'explique pour que vous voyez bien, parce que c'est important de bien saisir ça. L'unité générique, c'est animal, comparativement à homme, à chien, à cheval. C'est animal. Animal n'existe pas, évidemment, sans l'homme, sans le cheval, sans le champ. L'animal a des différences spécifiques différentes, diverses, pour avoir l'espèce. L'unité analogique, ce n'est pas une unité séparée. L'unité générique, elle n'est pas séparée non plus, puisque le genre n'existe pas tout seul, mais c'est une unité abstraite. Formellement abstraite. Elle est une unité qui est la même, dans l'homme, le cheval, le champ. C'est la même unité, c'est toujours animal. Tandis que l'unité analogique n'est pas la même dans les diverses espèces. Elle est chaque fois totalement différente. Donc il n'y a pas une inspiration génériquement une par rapport à tous les arts. L'inspiration est différente chez le poète, chez le peintre, chez le musicien. Ils sont tous des artistes, ils sont tous inspirés, mais il n'y a pas d'unité qui est la même. Elle est chaque fois diverse. Ça qui est intéressant, du reste, c'est de voir le caractère différent de l'inspiration du poète, de celle du musicien, de celle du peintre. Il y a une diversité. Donc ce n'est pas une unité générique. Hein. C'est ça qu'il faut bien saisir. Or, Maritain, un tout petit peu, pousse à faire de l'inspiration poétique, de l'intuition poétique, une espèce d'unité générique. Cette poésie d'expression verbale se manifeste pour Maritain dans les trois formes spécifiques. La poésie du poème ou du chant, la poésie du théâtre, la poésie du roman. Donc, la poésie a comme trois grandes ramifications, le poème ou le chant, le théâtre et celle du roman. Maritain dit ça dans l'intuition créatrice. La poésie, donc, c'est évidemment cette première forme de poésie, la poésie du poème, qui est la plus pure. Si grande que puisse être la poésie du théâtre et la poésie du roman, la poésie du poème ou du chant est par nature et restera toujours le type fondamental et le plus spirituel de poésie, et le plus cher à l'âme humaine, parce qu'il est le plus proche de l'intuition créatrice. J'aimerais, souligne Maritain, désigner la poésie du poème ou du chant comme la poésie d'internelle musique. Et il renvoie à ce qu'il avait dit précédemment à propos du sens poétique, ce sens poétique qui ne fait qu'un avec la poésie elle-même et l'antéléchie intérieure, ontologique du poème. L'antéléchie, c'est le mot acte, n'est-ce pas, en grec. Donc, et l'acte intérieur, l'ontologique, donc l'acte ontologique du poème. Il lui donne son être même et sa signification substantielle. Le sens poétique est la première épiphanie de l'intuition créatrice. C'est l'expression immédiate de l'intuition poétique. Son expression native est la plus pure, parce qu'elle baigne encore dans la nuit intuitive de la subjectivité. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais vous voyez ce qu'il veut dire. C'est que, pour lui, intuition poétique et sens poétique se tiennent, et qu'on est là à la racine de toute la poésie et de tout l'art. La poésie d'expression verbale contient en elle toute la richesse de la poésie au sens premier, mais signifie celle-ci en tant que s'exprimant par le sens poétique du poème. Donc on n'analyse rien. On exprime simplement, on affirme simplement, et c'est ça l'intérêt, c'est d'affirmer qu'il y a là quelque chose pour nous de tout à fait primordial. C'est la poésie qui nous fait introduire, qui nous introduit dans l'art. Donc c'est ça que ça veut dire. Alors, dans la mesure où le poème, et dans la mesure où le poète est l'éducateur par excellence, on peut dire que c'est la poésie qui nous introduit dans l'art. Mais on ne peut pas le dire dans le sens où la poésie aurait comme, si vous voulez, comme quelque chose de tout à fait propre, qui serait une source séparée de toutes les autres activités artistiques, comme un genre qui serait premier. Nous avons vu précédemment comment Heidegger, de son côté, exalter la poésie, fondation de l'être par la parole. Il y a une parenté constante entre Maritain et Heidegger à ce point de vue-là. C'est que tous les deux considèrent que la poésie est quelque chose de tout à fait primordial. Fondation de l'être par la parole. Réfléchissez là-dessus. Ça donne à penser, comme dit Heidegger. Ça donne à penser quand vous dites la poésie, fondation de l'être par la parole. Par la parole, vous fondez l'être. Et le poète, qui est le magicien de la parole, qui est le diémurge de la parole, qui est donc le créateur de la parole, le poète va être, par la parole, fondateur de l'être. C'est très intéressant, ça. Parce que vous voyez comment toute la métaphysique, toute la philosophie première de Heidegger, tout l'être, repose sur la poésie. Vous voyez le caractère particulier de Heidegger par rapport à Nietzsche. Vous faites le parallèle. Pour Nietzsche, la créativité fonde la morale. Font le surhomme, font l'amour, la créativité. Pour Heidegger, la poésie l'intuition poétique, la poésie, font l'être. Pour Nietzsche, il n'y a pas d'ontologie. Donc, s'il n'y a pas d'ontologie, c'est l'éthique, la nouvelle éthique, qui est l'éthique de l'amour, qui est l'éthique du surhomme, qui est sa métaphysique. Et elle repose sur la créativité. De même, Heidegger fait reposer l'être sur le point de vue de la poésie. Je crois que ça nous fait comprendre. Hein. C'est simplement ça que je voulais vous montrer, parce que c'est quand même important pour comprendre tout un aspect de notre culture moderne, si vous voulez, exprimé par la philosophie. C'est de comprendre que la poésie est exaltée comme première, comme fondation de l'être. Tout repose sur le poème.
Je vous salue, Marie,